Imaginez un peu la scène, essayez d'apprendre à danser en écoutant la musique avec des écouteurs qui sont complètement éteints.
Ouais, disons que ça donne un résultat un peu bizarre.
C'est ça. Vous maîtrisez la chorégraphie sur le bout des doigts, vous savez exactement à quel moment poser le pied gauche, comment pivoter sur le droit, tout est super calculé.
Mais une fois sur la vraie piste de danse, c'est une autre histoire.
Exactement. Quand la vraie musique résonne dans la salle et que votre partenaire bouge avec son propre rythme, ben vous êtes totalement déphasé. Vous êtes à contre-temps, raide, incapable de suivre le vrai flux.
Et ça, c'est un scénario qui est vraiment frustrant.
Tellement. Mais le pire, c'est que c'est exactement ce que des milliers de grappleurs font chaque jour sur les tatamis. Et aujourd'hui, pour cette émission de Radio JJJ, on va s'attaquer de front à cette vache sacrée de nos entraînements pour la communauté de l'école Jiu-Jitsu Saguenay.
Le fameux drill isolé.
C'est en plein ça. On a tous passé des heures et des heures à forer ce même passage de garde sur un partenaire amorphe, un partenaire qui fait la carpette en espérant secrètement que le mouvement devienne genre un réflexe magique en compétition.
Mais on sait que ça marche pas toujours comme ça.
Pas tout. L'objectif de notre plongée dans ces récents textes sur la pédagogie moderne du grappling, c'est pas de jeter le blâme sur vos instructeurs ou de manquer de respect aux traditions martiales. Au contraire, on veut évoluer. On veut comprendre pourquoi cette méthode limite votre progression en combat réel. Bon, décortiquons un peu tout ça.
C'est un chantier vraiment nécessaire pour n'importe quelle école qui cherche l'excellence. Si on veut comprendre pourquoi driller dans le vide pose un problème structurel, il faut d'abord observer comment on s'imagine que le cerveau et le corps humain fonctionnent.
Oui, la fameuse vision classique.
Exact. Depuis de très nombreuses décennies, la pédagogie martiale puis l'entraînement sportif en général s'appuient sur ce qu'on appelle le modèle séquentiel. L'idée fondatrice, c'est que l'humain serait câblé comme un ordinateur classique.
Un processeur qui traite des données.
Voilà. On modélise notre comportement en trois étapes distinctes. Étape 1, les capteurs, donc la perception. Nos yeux voient une posture, notre peau sent un transfert de poids.
OK, je perçois l'information.
Ensuite, étape 2, le processeur central, la décision. Le cerveau récupère ses données brutes, il les analyse, il fouille dans sa banque de techniques mémorisées et il choisit la parade idéale.
Et la troisième étape, j'imagine que c'est l'action physique.
C'est ça, l'imprimante, l'exécution. Le cerveau envoie une commande motrice aux muscles et la technique se déploie. Donc, perception, décision, action. 1, 2, 3.
Et honnêtement, c'est extrêmement dur à remettre en question parce que, ça flatte notre intelligence. C'est exactement le discours qu'on tient tous dans les vestiaires après un gros rang de riz.
Ah oui, le fameux débriefing d'après-combat.
Tellement fun. On refait le match en enlevant nos rage-gardes, puis on se dit « Ah, j'ai vu que son bras traînait sur mon col, fait que j'ai tout de suite pensé à mon scissor sweep, j'ai évalué l'angle et l'espacement, et bang, je l'ai lancé. »
On se donne le beau rôle.
C'est clair.
On se donne le beau rôle du stratège tactique qui calcule tout à la milliseconde près. Ça donne l'illusion flatteuse qu'on contrôle consciemment la machine de A à Z.
Ce qui est fascinant ici, c'est que cette belle histoire rationnelle, c'est une fiction.
Attends, une fiction?
Vraiment?
Absolument. C'est une rationalisation a posteriori. Dans le feu de l'action, face à un adversaire qui résiste vigoureusement, le cerveau ne fait pas un arrêt sur image pour traiter l'information de manière séquentielle et symbolique.
Donc le modèle 1, 2, 3, ça prend le bord.
Complètement. Ce modèle informatique a été renversé par un domaine de recherche très spécifique abordé dans nos sources. C'est ce qu'on appelle la psychologie écologique, qui a été initiée par le chercheur James Gibson.
OK. Arrêtons-nous tout de suite sur ce terme pour qu'il n'y ait pas de confusion. Parce que quand on entend le mot « écologique », on pense automatiquement à la nature, au recyclage ou genre à l'environnement global. Qu'est-ce que l'écologie vient faire sur un tatami de jujitsu?
C'est une super bonne question. Le terme écologique ici, ça fait directement référence à l'écosystème. Gibson refusait de regarder le cerveau d'un athlète comme une boîte noire isolée qui traiterait des données dans le vide.
Donc, pas de séparation entre le gars et son environnement.
Exact. Il a fondé une psychologie qui étudie l'organisme en interaction continue et inséparable avec son environnement. Et dans votre contexte, sur les tatamis, l'environnement, c'est le corps de votre adversaire, la gravité, la friction de la toile, l'adhérence du kimono.
Fait que tout est interconnecté.
Gibson postule que la perception et l'action ne sont pas deux étapes distinctes séparées par une phase de calcul. Elles forment un système couplé, une boucle fermée.
Une boucle fermée, OK.
En gros, on perçoit perçoit les choses dans le but d'agir et on agit dans le but de percevoir. L'un ne va pas sans l'autre.
C'est une rupture totale avec le modèle du cerveau ordinateur dont on parlait tantôt, mais c'est difficile à avaler au premier abord. Avez-vous une preuve concrète de ça?
Bien sûr. L'expérience sur le lancer de balle mentionnée dans les textes l'illustre à la perfection. Dans cette étude, des chercheurs lancent une balle vers des participants.
OK, un lancer classique.
Mais le truc, c'est qu'ils utilisent un système d'air comprimé pour freiner la balle de manière invisible à mi-chemin. Ça modifie sa trajectoire en plein vol.
Ah, vicieux. Fait que la balle ralentit d'un coup.
Exactement. Et si le modèle séquentiel des trois étapes était vrai, le participant aurait dû figer, pas vrai?
Ben oui. La logique voudrait que son bras se dirige vers le point de chute initialement calculé, qu'il rate la balle, puis qu'il fasse un mouvement correctif saccadé.
C'est ça. Il aurait fallu repasser par l'étape du processeur, s'apercevoir de l'erreur, effacer le premier calcul, produire une nouvelle trajectoire et renvoyer un signal aux muscles du bras.
Mais c'est pas ça qui s'est passé?
Non. Les caméras à haute vitesse en laboratoire racontent une toute autre histoire. Le bras du sujet s'ajuste en temps réel, de façon parfaitement fluide et continue. La main ralentit proportionnellement au ralentissement soudain de la balle.
Sans pause.
Sans même que le cerveau ait le temps de dire « Oups, la balle a ralenti ».
Aucune saccade. Aucune pause cognitive. Le flux visuel dicte directement l'ajustement moteur.
Wow.
Le corps s'ajuste littéralement avant la pensée consciente. Et si on ramène ça à la réalité du jiu-jitsu, c'est la mécanique profonde d'un renversement, mettons, comme un sweep depuis la garde ouverte?
Absolument, c'est la même dynamique.
Quand on lance un renversement, la personne au-dessus ne va pas geler sur place pour nous admirer. Elle va écarter une base, planter une main au sol, abaisser ses hanches pour changer son centre de gravité.
Et le grappleur en dessous doit gérer tout ça.
Exact. Et un grappeur expérimenté ne dit pas « pause, calcul de la nouvelle position ». Chargement de la technique numéro 4. Non. Il modifie la tension dans ses crochets et change l'axe de sa poussée instantanément en réagissant à la pression physique qu'il sent directement sur ses tibias.
C'est la définition même du couplage perception-action en milieu martial. L'information n'est pas traitée de façon abstraite dans le cortex préfrontal. Elle est captée directement par le système haptique, par la proprioception de vos articulations.
Donc, ça passe même pas par la réflexion consciente.
Non, c'est un dialogue dynamique, un flux ininterrompu d'ajustements micromoteurs. La véritable compétence d'un grappleur de haut niveau, ça réside pas dans le fait de dérouler un programme préétabli, ça réside dans sa capacité à maintenir ce couplage intime avec une situation chaotique qui change à chaque milliseconde.
Bon, là, on touche un point sensible. Si l'on accepte que la réalité pure du combat, c'est cette boucle ininterrompue d'ajustement, ça nous amène au cœur du problème. Qu'est-ce qu'on est en train de faire à notre système nerveux quand on s'isole dans un coin du dojo pour répéter 100 fois de suite le même passage de garde sur un partenaire qui nous laisse faire sans amputation?
Oui, le fameux partenaire complaisant.
C'est ça. Le gars qui s'allonge sur le dos, qui vous donne l'angle parfait et qui attend patiemment que la minute s'écoule sans bouger un orteil.
Bien, ce que l'on fait à ce moment précis, c'est rompre artificiellement le couplage. On ampute ce système de sa moitié vitale.
On coupe la connexion?
Exactement. En demandant au partenaire de devenir un simple mannequin de chair, on retire volontairement toute la variabilité et toutes les informations environnementales, la résistance, le déséquilibre, le timing, la tension musculaire. Tout ce à quoi le système nerveux devrait normalement apprendre à s'ajuster.
On isole l'action de sa perception fondatrice, dans le fond.
On exécute alors une forme motrice totalement désincarnée.
C'est notre analogie du début, hein? On apprend à danser avec les écouteurs fermés. On apprend la chorégraphie, mais on n'apprend pas à lire les signaux qui la déclenchent.
Et c'est là que le concept de transfert d'apprentissage dont parlent nos chercheurs devient un mirage.
Un mirage vraiment, hein? Parce qu'on a toujours pensé que ça se transférait bien.
C'est une illusion. Vous apprenez les étapes mécaniques de façon rigide, main sur le col, pied sur la hanche, pivot sur les épaules. Mais sur le tatami, lors du combat libre, l'adversaire a son propre rythme. Le manque de transfert est d'ailleurs massivement documenté par la littérature scientifique dans les sports de position.
Donc, répéter dans le vide, ça sert juste à être bon dans le vide.
C'est exactement ça. Répéter une tâche motrice dans un environnement statique, stérile et prévisible, ça améliore votre capacité à exécuter cette tâche dans un environnement statique et prévisible. C'est une loi de la spécificité de l'entraînement.
Mais dès qu'on passe au vrai sparring,
les résultats s'effondrent. Pourquoi? Parce que la difficulté première en combat, ce n'est presque jamais l'exécution biomécanique pure d'un étranglement ou d'une clé. La vraie difficulté, c'est de reconnaître l'opportunité.
Le fameux timing.
Oui, c'est de capter l'instant précis où le partenaire transfère son poids d'une manière qui rend la technique possible. On appelle ça une affordance en psychologie écologique, une opportunité d'action offerte par l'environnement. Dans le drill isolé, on supprime l'affordance pour ne garder que l'action.
Fait qu'un résumé, on renforce la mécanique d'une solution pour un problème qui n'existe pas encore.
C'est très bien dit.
Là, je sens déjà la tension monter chez les traditionnalistes de Jiu-Jitsu Saguenay qui nous écoutent. Et c'est normal d'avoir ce réflexe de défense. Ils vont nous dire, ben là, c'est bien beau vos théories écologiques, mais on peut pas prendre un groupe de ceinture blanche le tout premier jour, les jeter d'un rang de riz à pleine intensité et leur crier de s'auto-organiser.
Ah non, ce serait un carnage total.
Faut bien qu'ils apprennent la base mécanique, les placements de base, non?
Bien sûr, ce serait en effet un désastre pédagogique et la psychologie écologique appliquée au sport ne préconise absolument pas cette anarchie. Le drill isolé n'est pas un ennemi à bannir des tatamis. Il s'agit de le sauver en bornant très rigoureusement ses usages légitimes.
OK, donc on ne le jette pas à la poubelle?
Non, nos textes identifient trois rôles clés, très spécifiques, où cette méthode a tout son sens. Le premier rôle, c'est la création de ce que l'on nomme l'intention motrice.
L'intention motrice, ça veut dire quoi concrètement?
Lorsqu'un professeur démontre un concept complexe ou un renversement inédit, le système nerveux de l'apprenant a besoin d'une carte routière initiale. Où dois-je placer mes appuis? Quel est l'axe de rotation principal de mon bassin?
Fait que faire quelques répétitions au ralenti, ça aide.
Oui, sur un partenaire coopératif, ça installe cette intention globale. Mais attention, c'est la ligne de départ de l'apprentissage. Ce n'est en aucun cas l'aboutissement.
C'est comme consulter le plan d'une ville étrangère avant de s'y aventurer. Ça vous donne l'idée globale des artères principales, mais ça vous apprendra jamais à freiner sur une plaque de glace ou à naviguer dans un embouteillage monstre. Quel est le deuxième usage valide du TDS?
Le deuxième usage est l'automatisation de certaines sous-composantes motrices. Certains mouvements requièrent une coordination musculaire très fine ou un équilibre précaire, parfois peu naturel.
Comme des mouvements d'âge vraiment spécifiques au jiu-jitsu.
Exactement. En isolant temporairement cette petite portion du mouvement et en la répétant de manière concentrée, on diminue la charge cognitive. L'objectif, c'est que vos hanches ou vos appuis effectuent cette mécanique de base sans solliciter l'attention consciente.
On libère de la place dans le cerveau.
C'est ça. En libérant cette bande passante mentale, le grimpeur peut ainsi ramener toute son attention sur la lecture tactique de l'adversaire lors du combat.
Logique. Et le troisième usage?
Le troisième usage légitime concerne directement la correction diagnostique.
Ah, ça, c'est comme un atelier de réparation ponctuelle, surtout pour les pratiquants plus avancés qui stagnent sur un détail, non?
Exactement. Si un pratiquant expérimenté constate qu'un détail spécifique de sa technique est défaillant lors de multiples randonneries, par exemple, un contrôle de poignet qui glisse systématiquement à la dernière seconde, il est tout à fait pertinent de sortir temporairement de la situation couplée.
Il s'isole un peu.
Il s'isole avec un partenaire passif pendant quelques minutes pour recalibrer finement le placement de ses doigts, l'angle de son poignet, puis il replonge immédiatement dans le chaos de l'environnement dynamique pour éprouver cette correction à la dure. C'est une réparation ciblée.
Donc, on résume, les usages valides, fournir l'intention de départ pour une nouveauté, automatiser une sous-mécanique pour libérer l'esprit et faire de la réparation diagnostique pour les avancées.
Si on relie ça à la vue d'ensemble, le drill est un outil spécialisé, pas le moteur principal.
C'est fascinant. Mais si on accepte que cet outil isolé rompt le couplage naturel du combat, ma conclusion est évidente. Ce n'est pas là-dessus qu'on peut construire 80 % d'un cours.
Non, en effet.
Ce qui nous pousse à repenser l'écosystème entier de notre tatami. Comment recréer la réalité chaotique du combat tout en gardant un cadre sécuritaire pour l'apprentissage?
C'est là que les ratios entrent en jeu.
La pédagogie moderne suggère d'inverser drastiquement nos ratios traditionnels. Actuellement, beaucoup de dojos font 40 minutes de drill amorphe suivi de 10 ou 15 minutes de combat libre à la fin. Les sources proposent plutôt de viser un ratio 60 à 80 % du temps d'entraînement et consacré à des situations couplées.
Du sparring sous contrainte, des jeux situationnels.
Et on réduit le drill isolé à 20 ou 40 % du temps en s'efforçant de le rendre le plus dynamique possible.
Ce changement de ratio est le point de bascule vers une pédagogie écologique. Et c'est là que la magie de l'auto-organisation, le véritable moteur de l'apprentissage humain, entre en jeu. Car passer à 80 % de situations couplées, ça ne veut pas dire faire du combat en mort pendant une heure. Il s'agit de concevoir des jeux situationnels qui agissent comme des contraintes écologiques.
Il faut absolument qu'on détaille comment cette auto-organisation fonctionne concrètement dans le corps de l'athlète, parce que c'est souvent très abstrait pour ceux qui ne jouent que par la technique démontrée au tableau.
OK, prenons un exemple pratique.
Prenons un scénario classique. Vous voulez enseigner à vos élèves comment s'échapper d'un contrôle latéral, le fameux side control, où l'on se fait écraser le torse. La méthode classique, ce serait de montrer trois étapes. Place la main ici, fais un pont, insère le genou. Et répétez 50 fois.
Et avec la méthode par contrainte de l'auto-organisation, c'est complètement différent. Dans une approche écologique, l'instructeur ne dicte plus la solution mécanique, il conçoit le problème.
OK, il conçoit le problème. Mettons ça en contexte.
Vous placez l'apprenant en dessous, dans cette position désavantageuse de contrôle latéral. Vous donnez un objectif extrêmement simple à la personne au-dessus, maintenir une pression constante d'épaules et de poitrine, sans chercher à finaliser.
Et pour le gars en dessous?
La seule consigne pour la personne en dessous est « Trouve un moyen de ramener un de tes genoux entre toi et ton partenaire. Dès que le genou passe, le jeu s'arrête et on réinitialise. » C'est ça, la contrainte.
Au début, j'imagine que l'apprenant en dessous va paniquer un peu.
Complètement. Et va forcer avec la seule force de ses triceps, s'épuiser, se faire écraser sous le poids.
Le partenaire au-dessus offre un retour d'information immédiat et, disons-le, impitoyable.
Et sous cette contrainte, le système moteur en dessous va devoir s'auto-organiser pour survivre à l'écrasement.
C'est le cœur du processus. De manière autonome, le système nerveux va percevoir qu'il est biomécaniquement impossible de déplacer un poids mort de 90 kg avec l'extension des bras.
Ça marche juste pas. Sans que l'instructeur n'ait besoin de faire un long discours sur les angles, le corps de l'apprenant va sentir que s'il oriente légèrement ses hanches sur le côté et qu'il enlâche ses jambes, l'espace se crée de lui-même pour glisser le genou.
C'est fou pareil, hein? Le corps trouve le levier non pas parce que le cerveau s'est souvenu d'une liste de consignes, mais parce qu'il a cherché le chemin de moindre résistance face à un obstacle bien réel.
Exactement. La compétence naît de l'adaptation à la contrainte. Le corps est poussé à trouver la vérité biomécanique par lui-même.
C'est brillant, car on forme des pratiquants capables de générer du levier dans n'importe quelle configuration chaotique. Pas des robots qui récitent une séquence qui ne marche que si l'adversaire coopère. Mais il y a un dernier mur à franchir.
Lequel?
Un mythe tenace qui a la peau dure dans toutes les écoles d'arts martiaux, c'est l'argument de l'autorité historique. On se fait constamment dire « Écoutez, c'est bien beau la science moderne, mais les vieux maîtres au Japon ou les fondateurs de notre art au Brésil, ils faisaient des heures et des heures de répétition isolées dans leur dojo. Et regardez le niveau légendaire qu'ils ont atteint. »
Ah oui, l'argument de la tradition.
C'est ça, ils disent « On ne va pas réinventer la roue. » Sauf que les historiens du sport et les textes qu'on a épluchés révèlent une réalité historique fascinante à ce sujet.
L'histoire martiale a malheureusement été très simplifiée et parfois romancée au fil du temps. Quand on analyse rigoureusement les sources historiques, on découvre que l'immense maîtrise de ces figures fondatrices, ce sens du timing presque surnaturel qui les caractérisait, ben ça provenait pas du tout de leurs arts de répétition statique.
Ça venait d'où d'abord?
Leur intelligence de combat s'est forgée dans le rang doré. Les dojos de l'époque favorisaient des sessions de combat libre interminables dans des conditions d'une grande rudesse.
Mais alors, pourquoi ils faisaient autant de répétitions?
Leurs exercices de répétition massifs, comprenaient pour de l'acquisition technique fine, servaient en réalité un objectif prioritaire très différent. Le conditionnement physique...
C'était tout simplement leur méthode pour forger le cardio?
Exactement.
Ces séries d'entrées répétées des centaines de fois visaient à développer l'endurance musculaire spécifique, à densifier la structure osseuse, à bâtir une résilience mentale face à l'épuisement.
Et c'est là qu'une erreur de traduction pédagogique s'est glissée au fil des générations. On a confondu la préparation physique brute...
Qui était le véritable but de ce drill brutal. C'est ça avec l'acquisition de la compétence martiale fine et de la prise de décision.
C'est une confusion fondamentale entre le développement des qualités athlétiques et le développement de la finesse perceptuelle. Bâtir le coffre et l'endurance est une étape vitale pour survivre sur un tapis. Mais il est illusoire de penser que répéter une charge musculaire dans le vide aiguise votre capacité à lire les intentions d'un adversaire.
Fait que la créativité et le timing, ça se travaille pas comme ça.
Non, la créativité, le timing, la capacité d'adaptation, bref, l'art véritable n'émerge que dans le chaos du couplage, jamais dans la répétition stérile d'une forme préétablie.
Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire, au fond? Quel est le grand message à intégrer pour vos prochaines séances sur les tatamis? C'est que le combat n'est pas un catalogue de mouvements isolés qu'on collectionne comme des timbres. Le jiu-jitsu est un organisme vivant, un système indivisible, un dialogue constant entre l'information que vous percevez et l'action que votre corps déploie.
Pour maîtriser cet art, vous devez nourrir ce lien vital.
Et la seule façon de le faire, c'est de passer le plus clair de votre temps plongé dans le chaos contrôlé, dans ces jeux situationnels où l'adversaire ne vous fait aucun cadeau. Le drill isolé est la clé à molette pour débloquer une pièce du moteur, mais ce n'est pas l'essence qui fait avancer la machine sur le terrain.
Et il faut accepter que cette transition pédagogique demande une certaine patience. Le progrès dans un environnement chaotique sous contrainte peut sembler moins immédiat, moins propre visuellement que lors de l'exécution d'une chorégraphie mémorisée.
Oui, c'est vrai que ça a l'air un peu brouillon au début.
Les échecs sont plus fréquents, la maladresse est visible. Mais c'est précisément dans cette lutte pour l'adaptation que se forge une compétence infiniment plus robuste face à l'imprévu. Vous éduquez votre système nerveux à réagir aux variables réelles de l'environnement.
Vous repérez des affordances pour bouger plutôt que de forcer l'application aveugle d'une technique hors contexte.
C'est exactement l'objectif.
Alors, à vous tous qui formez l'âme de la communauté de Jiu-Jitsu Saguenay, on vous lance un défi d'observation. Lors de votre tout prochain cours, prenez un instant de recul sur le bord du tapis. Regardez honnêtement votre ratio de pratique sur une heure d'entraînement.
Posez-vous la question du ratio.
Quel pourcentage de ce temps passez-vous véritablement à vous adapter à une résistance imprévisible face à un partenaire qui respire, qui contrecarre vos plans, qui triche un peu sur ses appuis? Si vous passez encore l'écrasante majorité de votre soirée à shooter un partenaire qui s'est déjà à moitié couché pour vous aider, vous savez désormais que vous avez un sérieux ajustement à faire dans vos écouteurs. Il faut allumer la musique.
Cette invitation à l'observation, cela soulève une question importante pour la suite de votre évolution martiale.
Ah oui, laquelle?
En grappling ne réside pas dans la récitation mécanique de mouvement, mais dans cette capacité presque magique à capter la bonne information au milieu du chaos, genre sentir un transfert de poids d'à peine un kilo ou lire un appui défectueux au niveau du bassin de l'adversaire. La question devient, comment on entraîne spécifiquement nos capteurs sensoriels?
Ouais, comment on fait pour aiguiser tout ça?
Comment apprend-on à notre cerveau et à notre corps à filtrer l'immense bruit ambiant du combat pour ne réagir instantanément qu'au signal qui compte vraiment? C'est le cœur même des recherches magistrales de la chercheuse Eleanor Gibson sur ce qu'elle nomme si justement l'éducation de l'attention. Et croyez-moi, c'est une toute autre frontière de la compréhension de l'apprentissage humain. C'est une immense piste de réflexion à laisser mûrir tranquillement lors de vos prochains étirements.
Voilà de quoi faire bouillir le ciboulot avant même de saluer le tatami et de lacer vos ceintures. Observez votre pratique. Osez bousculer un peu vos habitudes d'entraînement. Explorez ces zones de déséquilibre. Mais bien sûr, toujours avec une rigueur absolue et un respect profond pour vos partenaires de club. Merci de nous avoir accompagnés dans cette longue analyse. On se retrouve très vite sur Radio JJS pour continuer à décortiquer tout ce qui fait de nous des pratiquants plus avertis et plus redoutables. Gardez la pression et à très bientôt!